est tout juste 10h à Paris. Merci d'écouter RFI, 9h en temps universel.
Gaëtan Plenet.
Bonjour à tous. La perspective d'une trêve s'éloigne de plus en plus à Gaza. Le Qatar a confirmé hier soir suspendre la médiation qu'il menait entre Israël et le Hamas. Elle ne reprendra, dit l'émirat, que lorsque les parties feront preuve de volonté et de sérieux. On va voir comment cette annonce est reçue côté palestinien. On va parler aussi des enjeux de l'APEC, le sommet économique de l'Asie-Pacifique qui s'ouvre aujourd'hui à Lima, au Pérou, du Nigeria où les autorités s'inquiètent des tentatives d'incursion d'un nouveau groupe armé dans le nord-ouest du pays. Et puis de ce conflit entre l'Inde et le Bangladesh sur des factures d'électricité non réglées. Au moins 30 morts, dont 13 enfants, tôt ce matin dans la bande de Gaza. La défense civile de l'enclave évoque deux frappes distinctes contre des maisons, l'une à Jabalia dans le nord et puis l'autre dans le quartier Al-Sabra de Gazaville. Des personnes seraient encore piégées sous les décombres. Et après 13 mois de guerre, la famine menace, selon un nouveau rapport de l'ONU. Peut-être même les seuils ont-ils été franchis, nous dit-on, mais sinon ils seront franchis dans un avenir proche. C'est faux, réplique l'armée israélienne qui accuse les chercheurs de s'appuyer sur des données partielles et biaisées. Israël qui, comme le Hamas, se voit reprocher par le Qatar un manque de volonté et de sérieux dans les négociations pour une trêve. Alors l'émirat a décidé de suspendre sa médiation. Les précisions d'Alice Froussard.
Israël et le Hamas ont été informés il y a 10 jours de cette décision, assure Doha, qui semble en avoir assez de ces cycles sans fin de négociations. Il faut dire que depuis le 7 octobre 2023, la médiation du Qatar n'a mené qu'à une seule trêve. Elle a duré une semaine et a permis la libération d'otages israéliens retenus à Gaza et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Depuis, de nombreux pourparlers ont eu lieu sans résultat, car Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de bloquer tout accord, chaque camp refusant les conditions de l'autre pour parvenir à un cessez-le-feu. Pour les Palestiniens, cela n'a rien d'une surprise ni d'un désaveu. On ne croit plus aux négociations, précise un habitant de Gaza qui n'attend plus que des actes, un cessez-le-feu pour, je cite, que ces massacres se terminent, avant d'insister. À Gaza, la situation, dit-il, est de pire en pire, qu'il y ait ou non des négociations.
Et ce gel de la médiation qatarienne inquiète les familles et les proches des otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas, car leur libération était censée aller de pair avec un accord de cessez-le-feu. De nouvelles manifestations plaidant pour le retour de ces captifs ont eu lieu hier à Tel Aviv ainsi qu'à Jérusalem. En parallèle, l'armée israélienne continue de frapper le Liban. Au moins 33 morts sur la seule journée d'hier, selon le ministère libanais de la Santé, qui évoque des raids menés dans la région de Baalbek, dans l'est du pays, mais aussi dans le sud. Ce sont là deux bastions du Hezbollah, alliés du Hamas. Et puis les États-Unis ont annoncé de leur côté avoir frappé cette nuit des cibles des rebelles houthis au Yémen, des installations de stockage d'armes utilisées notamment par le groupe en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, où les houthis s'en prennent à des navires liés, selon eux, à Israël, le tout en solidarité donc avec le Hamas. L'Ukraine annonce saisir l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge. Le pays affirme qu'un de ses soldats, blessé et désarmé, a été exécuté par un militaire russe. Des images circulent sur les réseaux sociaux, mais elles n'ont pas encore été authentifiées. Il y a quelques jours déjà, les autorités ukrainiennes avaient dit enquêter elles-mêmes sur d'autres exécutions présumées, cette fois sur 6 soldats capturés dans l'est du pays. Côté russe, l'armée annonce avoir abattu 70 drones ukrainiens cette nuit, la moitié d'entre eux dans la région de Moscou, la capitale, qui a ainsi subi l'une des attaques de drones les plus importantes depuis le début de la guerre en Ukraine. Après le Sénat remporté cette semaine, les républicains américains en passent de conserver le contrôle de la Chambre des représentants. Ils sont déjà 213 à être élus, plus que 5 et la majorité sera acquise. Il faut encore attendre certains résultats. Pour ce qui est de la présidentielle, CNN et NBC l'affirment. Donald Trump l'a aussi emporté en Arizona. Ça veut dire un grand chelem dans l'ensemble des 7 États clés. Donald Trump qui prêtera serment le 20 janvier prochain, en tant donc que nouveau président. Mais il retournera à la Maison-Blanche dès mercredi, reçu dans le bureau ovale par celui qu'il va remplacer, Joe Biden. L'actuel chef de l'État s'est engagé à une passation du pouvoir pacifique avec la prochaine administration républicaine. Joe Biden, qui est attendu au Pérou ce dimanche, où doit s'ouvrir à Lima le sommet économique de l'Asie-Pacifique. Une réunion où les États-Unis, comme la Chine d'ailleurs, devraient attirer beaucoup l'attention, Martin Chabal.
Pour le Pérou, la venue du président chinois Xi Jinping et du président américain Joe Biden est un événement. Ici, la Chine espère renforcer son influence sur les deux continents séparés par l'océan. Xi Jinping va inaugurer un mégaport chinois géré par une entreprise chinoise au nord de Lima, l'un des plus grands ports d'Amérique du Sud, qui permettra à la Chine d'exporter encore plus de marchandises dans la zone. Joe Biden, pour l'un de ses derniers déplacements avant le G20 au Brésil, tentera sûrement de rassurer Taïwan. La toute récente élection de Donald Trump pourrait enclencher une nouvelle dynamique dans la région, pas forcément à l'avantage de Taïwan face à Pékin. Enfin, vient le rôle de la Russie dans ce sommet de l'APEC. C'est encore le gros point d'interrogation alors que l'événement ouvre aujourd'hui. Vendredi, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov annonçait la venue du vice-premier ministre russe Alexei Overtchouk sans qu'on sache vraiment ce qu'il y fera. On ne sait pas si Vladimir Poutine fera passer des messages à son homologue américain. De son côté, le Pérou, pays hôte, devrait faire face aux manifestations et aux grèves. Les Péruviens, mécontents de la politique nationale menée par leur présidente Dina Boluarte, ont appelé à bloquer le pays lors du sommet. Martin Chabal, Lima, RFI.
Au Mexique, 10 morts après une attaque dans un bar de Querétaro dans le centre du pays. Des individus armés y ont fait irruption et ont ouvert le feu. On ne connaît pas encore les raisons qui ont motivé cette attaque alors que cette ville est habituellement plutôt épargnée par les violences de gangs et du narcotrafic. Au Nigeria, par contre, le nord-ouest du pays est habitué aux violences et il y a maintenant une nouvelle menace sécuritaire sur l'armée, un nouveau mouvement appelé l'Akurawa qui a mené des incursions dans les états de Sokoto et de Kebbi, frontaliers du Niger. Les précisions avec Amélie Tulé.
Le porte-parole de l'armée nigériane fait un lien entre le coup d'état de juillet 2023 au Niger et l'émergence de ce nouveau groupe armé dans le nord-ouest du Nigeria. Pour le général de division Edward Bouba, le renversement à Niamey de Mohamed Bazoum il y a un peu plus d'un an par les militaires du CNSP a perturbé un temps les patrouilles conjointes à la frontière. Depuis, elles ont pu reprendre, mais l'armée nigériane dit rester vigilante dans un contexte où le nord-ouest du pays est déjà confronté depuis des années aux gangs armés et à la multiplication des kidnappings contre rançon. Selon la plateforme d'investigation nigériane Youmangol, contrairement aux déclarations officielles, il ne s'agit pas de l'émergence d'une nouvelle menace, mais plutôt de la résurgence d'un mouvement ayant déjà mené des incursions dans l'état de Sokoto il y a 6 ans. L'Institut néerlandais des relations internationales Klingendel rappelle en effet qu'en octobre 2018, un groupe soupçonné d'être affilié au mouvement État islamique avait d'abord été bien accueilli au niveau local. Les villageois surnommaient l'Akurawa les membres de ce mouvement qui offrait une protection contre les bandits avant qu'ils n'essaient d'imposer aux habitants une gouvernance stricte sur le modèle du groupe État islamique.
Amélie Tulé. Élections législatives anticipées ce dimanche à Maurice, convoquées après la dissolution du Parlement au début du mois dernier par le Premier ministre. Il espérait ainsi conforter la majorité de la coalition l'Alliance du Peuple en surfant sur l'accord passé avec le Royaume-Uni pour la reconnaissance de la souveraineté mauricienne de l'archipel des Chagos. Sauf que la campagne n'a pas été de tout repos pour le pouvoir, marquée notamment par une affaire d'écoute téléphonique. Voilà qui ne devrait pas arranger les relations entre l'Inde et le Bangladesh. Le géant industriel indien Adani menace de couper complètement l'approvisionnement énergétique du pays voisin. Il exige le remboursement d'impayés. Oui, mais Dhaka dénonce de son côté un accord commercial inéquitable, scellé du temps de l'ex-dirigeante Sheikh Hasina, perçue comme inféodée à New Delhi. Correspondance et explications depuis Bangalore de Comast.
Face à une ardoise de plus de 700 millions d'euros, le Bangladesh demande à échelonner sa dette envers Adani Power. Mais le géant indien se montre intraitable. Il a réduit cette semaine de 60% l'alimentation électrique de son voisin et menace de la couper totalement. Un face-à-face qui traduit la méfiance croissante entre les deux pays. Depuis la chute de Sheikh Hasina, grande protégée de Narendra Modi, l'Inde s'inquiète de la nouvelle donne à Dhaka. Le chantage énergétique d'Adani, un milliardaire proche de Narendra Modi, vise à rappeler à son voisin que les entreprises indiennes sont incontournables. À Dhaka, on dénonce un accord aux tarifs prohibitifs, symbole du clientélisme de l'ancien régime avec l'Inde. Zilur Rahman, analyste politique.
Le manque de transparence lors de la conduite des négociations et de la signature de l'accord a donné l'impression au public à Dhaka que les intérêts du Bangladesh n'ont pas été correctement représentés.
Ces invectives enveniment une situation déjà tendue. Beaucoup de Bangladais exigent l'extradition de Sheikh Hasina, accusé de crimes contre l'humanité, mais protégé par l'Inde. Comme Bastin, Bangalore, RFI.
Et puis déjà beaucoup de monde ce matin dans le chenal des Sables d'Olonne dans l'ouest de la France. Ils vont être des milliers aujourd'hui pour assister au départ du Vendée Globe, à 10e édition de la désormais mythique course à la voile en solitaire à travers le monde. Le coup d'envoi officiel, ce sera à très exactement 12h02 en temps universel. 40 skippers tentent l'aventure cette année. On suivra ça évidemment sur RFI. Je vous souhaite une très belle journée. Il est 10h10 à Paris, 9h10 en temps universel.